Je vais donc vous parler de l'aumône, de la prière et du jeûne. Ça va comme ça, vous m'entendez? Très bien. J'ai donc un texte et puis j'ai fait un PowerPoint. Alors, on a un professeur de théologie à l'université de Fribourg, c'est un dominicain aussi, qui dit, oui, aujourd'hui, on voit partout de ces PowerPoints. Lui, il pense que soit on fait un PowerPoint, soit on a quelque chose à dire. Alors, j'espère que j'ai quelque chose à dire, mais comme je n'ai pas donné de plan, parce que je pense que c'est un peu compliqué, ça vous permet un tout petit peu de poser le regard sur quelques textes que je vais citer, et sur un tout petit peu, comme ça vous arrivez peut-être un petit peu à voir la structure du propos. C'est très simple, on va simplement essayer de voir d'où viennent ces trois réalités, que sont l'aumône, la prière et le jeûne. Pourquoi est-ce que l'Église nous propose cela durant le temps du carême, un petit peu d'où ça vient dans l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, ce que le Christ Jésus en a dit, ce qu'il en a fait, et puis une petite partie de conclusion qui élargit un tout petit peu la pratique de ces trois piliers. C'est le titre de la conférence, mais ça fait penser aux piliers de l'islam. Et je pense que le vrai pilier du carême, c'est pas ces trois réalités, le vrai pilier du carême, c'est l'Esprit Saint. Alors, première question donc, d'où viennent ces trois fondamentaux? Pourquoi est-ce que chaque fois que le carême commence, on commence par nous faire un sermon sur l'aumône, la prière et le jeûne? Eh bien, si vous allez à la messe du mercredi des cendres, vous le savez, ça vient du sermon sur la montagne de Jésus, l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 6. Et dans ce sermon sur la montagne, il y a notamment un passage où le Christ, vous le connaissez, n'est-ce pas, s'adresse à ses disciples, et justement synthétise son discours autour de ces trois réalités, n'est-ce pas? Quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche, ou l'inverse, on y reviendra plus tard. Quand vous priez, ne priez pas comme les hypocrites, ni comme les païens d'ailleurs, on verra. Quand vous jeûnez, Ne vous parfumez-vous la tête, enfin, il ne faut pas montrer qu'on souffre beaucoup parce qu'on jeûne. Donc, c'est lui-même qui synthétise un peu ces choses-là. Dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas de texte qui explicite ces trois réalités, d'accord? Elles sont présentes régulièrement, les trois très régulièrement, tout au long des différents livres de l'Ancien Testament, mais il n'y a pas un petit enseignement sur ces trois réalités de manière aussi formelle que dans l'Évangile selon saint Matthieu. Une petite parenthèse encore, c'est que quand vous priez, n'est-ce pas, dans la version liturgique du mercredi des cendres, on coupe une partie, on enlève une partie. Et c'est dommage, mais c'est pour pas que ça dure trop long, parce qu'il y a les cendres, il y a le sermon qui est trop long, donc on coupe l'Évangile. Mais quand vous priez, en fait, c'est là, dans l'Évangile selon saint Matthieu, que Jésus enseigne le Notre Père. Et je pense que c'est important de le savoir quand même, et c'est dommage qu'on l'enlève. Alors pourquoi est-ce que le Christ, quand il fait un sermon de carême à ses disciples, pourquoi est-ce qu'il parle d'aumône, de prière et de jeûne? Eh bien, assez simplement, parce qu'il se réfère à la pratique religieuse du peuple juif, il fait partie de ce peuple, pour lequel l'aumône et la prière et le jeûne sont des réalités importante. Alors, je prends maintenant les trois réalités et puis j'essaye de, sans trop vous casser les pieds, mais j'ai fait un test déjà hier soir avec mon petit topo, donc ça va, personne ne s'est endormi. Je vous parle des trois réalités dans l'Ancien Testament, puis on essaye de voir ce que le Christ en a fait. Donc, l'aumône, dans l'Ancien Testament, c'est une exigence de justice sociale. Le mot pour dire aumône dans l'Ancien Testament, il a trois sens. Il signifie d'abord la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. L'aumône dans l'Ancien Testament, c'est d'abord en fait Dieu qui fait l'aumône parce qu'il est miséricordieux et qu'il est bon avec les êtres humains. Le deuxième sens dans l'Ancien Testament, c'est une justice qui consiste en la réponse loyale de l'homme à Dieu. N'est-ce pas ? Vous prenez le livre des Deutéronomes. Dieu donne des règles, des lois au peuple, et puis le peuple dit « Oui, nous nous acceptons, nous nous reconnaissons dans ces lois et nous allons suivre la loi du Seigneur. Ben, » cet acte de dire « Oui, nous voulons suivre les lois que tu nous donnes », c'est l'aumône du peuple vis-à-vis de Dieu. Et puis il y a le troisième sens qui est celui finalement qui s'est imposé et qui pour nous est le premier sens de l'aumône, c'est la miséricorde de l'homme pour ses semblables. Dans l'Ancien Testament, l'aumône, c'est un devoir et donc elle est codifiée dans la loi, elle est réglementée. Par exemple, on demande aux membres du peuple d'Israël de laisser une partie des récoltes, quand ils font des récoltes dans leurs champs ou bien qu'ils font leurs vendanges, la loi leur demande de laisser un petit reste dans les bords du champ ou bien sur le pied de vigne pour le glanage ou pour le grappillage, et ça servira à ceux qui ont faim, aux pauvres qui n'ont pas à manger. Et non seulement on doit le laisser, mais si une fois qu'on a travaillé son champ et puis qu'on a fait la récolte, on trouve qu'on a un peu moins que l'année passée, puis qu'on a peut-être un peu trop laissé pour les pauvres, on n'a pas le droit d'aller rechercher. Donc ça fait partie, vous voyez, c'est une sorte de justice sociale pour ceux qui n'ont pas assez à manger. Ils ont le droit d'aller grappiller sur les vignes et d'aller chercher ce qu'on a laissé dans les champs. C'est codifié aussi dans une dîme qu'on verse trois fois par année, quand on est membre du peuple d'Israël, en faveur de ceux qui n'ont pas de terre. Donc, c'est une société, disons, plutôt rurale. En principe, on a de la terre, mais il y en a qui n'en ont pas. À commencer par les Lévites, n'est-ce pas ? C'est une des 12 tribus d'Israël, mais c'est la tribu sacerdotale. Donc, eux, ils travaillent au temple de Jérusalem. Donc, ils n'ont pas tellement le temps de cultiver des terres. Donc, eux, on doit leur donner à manger. Mais il y a aussi ceux qui sont arrivés dans le pays, les étrangers, il y a les orphelins, il y a les veuves, ceux-là n'ont pas de terre à travailler, et donc on donne une partie de ce qu'on récolte pour ces gens-là, et c'est réglementé. Et puis, il y a une invitation à répondre généreusement à l'appel des pauvres, n'est-ce pas ? De manière très régulière, la loi dit, je vous en cite un passage, « Le malheureux ne disparaîtra pas de ce pays. Aussi, je te donne, c'est Dieu qui parle, je te donne ce commandement, tu ouvriras tout grand ta main pour ton frère quand il est dans ton pays, pauvre et malheureux. » Donc, on appelle dans la loi, on appelle les gens à un peu de générosité. Et puis, vous voyez, à l'époque où, dans un peuple où il n'y a pas d'assurance sociale, il n'y a pas d'État-providence, eh bien, cette aumône réglementée faisait qu'on pouvait vivre même pauvre dans le pays. On pensait en tout cas aux pauvres, il y avait quelque chose qui subvenait à leurs besoins premiers. Mais il ne s'agit pas simplement d'une simple philanthropie dans l'Ancien Testament, c'est aussi l'aumône un geste religieux. À l'époque, les choses étaient un peu moins distinguées, n'est-ce pas, entre le monde civil et le monde religieux, donc ça paraît assez naturel. Mais là, l'aumône, elle est liée à certaines célébrations liturgiques. Par exemple, dans le deuxième livre de Samuel, vous avez le roi David qui ne siège pas encore à Jérusalem, mais il se bâtit un palais royal à Jérusalem. Et donc, il va emmener, une fois qu'il a fini tout ça, il va prévoir un endroit un peu en dessus du palais royal, là où est toujours l'esplanade du temple à Jérusalem aujourd'hui. Il va déménager l'Arche de l'Alliance, donc une grande caisse en bois richement décorée, dans laquelle il y a les deux tables de la loi qu'on a gardées depuis l'Exode. Depuis la fuite en Égypte, on a reçu cette loi, ces 10 commandements sur le mont Sinaï. Et donc, on va déposer ça dans une tente, parce que l'Arche de l'Alliance habite d'abord dans une tente avant d'habiter dans un temple. Et David organise une sorte de grande procession de la fête Dieu pour le déplacement de cette Arche de l'Alliance. Et puis, il y a une grande liturgie. Et puis, à la fin de la liturgie, comme tout le monde est content et que lui est très content, il distribue des pains aux raisins. Enfin, il distribue un pique-nique assez généreux à tout le peuple. Voilà. Ça, c'est lié donc à une célébration liturgique. Ou bien, vous avez, des gestes d'aumône qui atteignent Dieu lui-même et donc qui ouvrent un droit à une rétribution. Et on fait l'aumône parce que, donc l'aumône c'est toujours pour un pauvre, mais on sait que le geste de l'aumône touche le cœur de Dieu. Donc c'est bien un acte de foi, et je vous ai mis là une petite citation du livre de Tobie, Fais l'aumône avec les biens qui t'appartiennent, ne détourne ton visage d'aucun pauvre, et le visage de Dieu ne se détournera pas de toi. Donc vous voyez, il y a une sorte de petite récompense que Dieu donne à celui qui fait l'aumône, à celui qui est généreux, quoi. Donc, en fait, il y a déjà un peu cette idée qu'on retrouve dans l'Évangile, si tu donnes de ton bien, tu perds de la richesse matérielle, financière, mais tu te fais un trésor ailleurs et autrement, tu te fais un trésor au ciel. Voilà. Alors maintenant, bien entendu que quand on légalise, vous voyez, quand on codifie quelque chose comme l'aumône, ça fait partie de la loi du peuple juif, comme pour la prière et le jeûne, on le verra tout à l'heure, le danger, c'est de réduire cette réalité qui se veut religieuse, qui se veut... on le fait parce qu'on est membre du peuple juif, parce qu'on croit en Dieu, on réduit cette aumône à une simple pratique qui pourrait tranquilliser la conscience, n'est-ce pas ? Et l'Évangile, justement, le Christ dans l'Évangile, veut attirer notre attention sur ce danger et montrer que la pratique de l'aumône, en fait, elle a des fondements et des ramifications bien plus larges. Alors... Il y a à nouveau une faute de temps en temps pour vous réveiller un petit peu. Alors, si on regarde ce que dit le Christ, n'est-ce pas, il dit que l'aumône doit être pratiquée avec un désintéressement total et sans ostentation. C'est ce fameux évangile du mercredi des cendres, n'est-ce pas ? Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Voilà. Deuxième caractéristique du discours du Christ sur l'aumône, c'est qu'il ne faut rien attendre de retour. Quand on fait l'aumône, il ne faut rien attendre de retour. C'est le deuxième petite citation que je vous ai mis, n'est-ce pas ? Donne à quiconque te demande et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. C'est juste comme ça. Vous avez d'autres passages d'évangile qui disent ça, n'est-ce pas ? Ton voisin te demande de faire 2 kilomètres avec lui, fais-en 4. Il te demande ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Donc il y a quelque chose comme ça, sans retour, une générosité sans fond. Et puis même, sans mesure, n'est-ce pas ? On ne mesure pas. Finalement, on nous dit même dans l'Évangile, c'est le Christ qui le dit, il faut donner des mesures assez conséquentes, parce que finalement, c'est la mesure que tu utilises pour les autres qui servira pour toi. Donc finalement, plus tu es généreux, plus ça va se retourner en bien pour toi. Donc il y a quand même un petit peu, vous voyez, cette idée de rétribution dans le discours du Christ. Par exemple, pour prendre le premier, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, comme ça ton aumône, elle reste dans le secret, et dans le secret, le Seigneur te voit. Et il te le rendra. Ça se termine comme ça quand même, quoi. Donc il y a un petit retour quand même. Et puis il y a une troisième disons caractéristique de cette aumône, c'est qu'en fait en aimant nos frères et sœurs malheureux à qui on fait l'aumône, c'est Jésus que nous aimons. C'est cet évangile, n'est-ce pas, un peu terrible. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi, Jésus, que vous l'avez fait. Puis il y a le revers de la médaille, tout ce que vous n'avez pas fait à ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc là, ça devient quand même un tout petit peu angoissant. Et puis, l'aumône dans le discours du Christ, c'est aussi une condition pour suivre Jésus. Jésus tient très régulièrement des discours sur la richesse et la pauvreté à ses disciples, et en fait, il dit, si vous ne lâchez pas les richesses, vous n'arriverez pas à me suivre, quoi. On a par exemple le Saint-Luc chapitre 18, c'est le dernier petit texte ici, c'est ce fameux jeune homme riche, n'est-ce pas, qui est très bon élève, il veut demander qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, eh bien il faut suivre les commandements, mais ça moi je le fais déjà. Ah, Jésus s'arrête, le regarde et l'aime, et lui dit, alors vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et toi suis-moi. Voilà. On connaît la suite de l'histoire. Il y a aussi quelque chose, mais ça c'est pas Jésus qui le dit, ce sera saint Paul après dans les lettres, par exemple 2e aux Corinthiens, il y a quelque chose dans le monde de l'imitation de Jésus, n'est-ce pas ? Jésus qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous, écrit saint Paul, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Donc vous voyez, vous avez des phrases comme ça, un peu spéciales, qui sont assez absolues. En être enrichi, le Christ nous enrichit par sa pauvreté. C'est une des phrases assez mystérieuses de l'économie de l'Évangile. Il y en a d'autres, vous voyez, c'est qui veut garder sa vie doit la perdre. Celui qui garde sa vie, il la perdra de toute façon. Voilà. Ou bien vous avez l'Évangile des talents, n'est-ce pas ? En fait, pour vivre de l'Évangile, il faut dépenser l'Évangile qu'on a. Si on veut garder la vie chrétienne, la vie de la grâce, alors elle s'éteint. Il faut que le grain soit semé et qu'il meure pour porter du fruit. Sinon, il ne sert à rien du tout. Donc c'est ces lois un tout petit peu typiquement évangéliques et donc typiquement chrétiennes qui manifestent bien ce qu'on appelle la radicalité de l'Évangile. Ça paraît très difficile à mettre en pratique. Mais finalement, le discours du Christ, ça s'ouvre sur ces horizons-là, n'est-ce pas ? Et puis, on peut aller encore un peu plus loin. On peut rappeler, par exemple, que face à la femme pécheresse qui achète un parfum qui coûte l'équivalent de 300 journées de travail, donc c'est un parfum hors de prix, pour le verser tout sur les pieds de Jésus, juste avant, l'entrée de Jésus à Jérusalem, Jésus aurait quand même pu dire, c'est un peu du gâchis quand même, un parfum comme ça sur mes pieds. C'est Judas qui dit ça, qui dit, mais enfin, c'est du gâchis, on aurait pu nourrir des pauvres avec le prix de ce parfum. Jésus donne raison à la femme et pas à Judas. Dans des pauvres, vous en aurez toujours. Là, il y a quelque chose de prophétique dans ce qu'elle fait. On peut aussi relever la portée ecclésiale de l'aumône dans les lettres de saint Paul ou dans les actes des apôtres. Soit on a une église issue, enfin une grande église, l'église de Jérusalem, issue du peuple juif, donc des juifs convertis. Puis après, ma foi, comme ces nouveaux chrétiens sont un peu pourchassés, ils s'en vont et ils fondent des églises dans le monde païen. C'est là que saint Paul œuvre. Mais l'église de Jérusalem, il y a une famine, ils ont besoin d'aide, il faut faire une grosse collecte pour l'église de Jérusalem. Et saint Paul va organiser cette collecte parmi les églises qu'il a fondées. Et en fait, cette collecte, elle est appelée aumône, c'est-à-dire qu'elle est la manifestation de l'unité des communautés qui forment l'Église primitive. Donc dans l'aumône, il y a quelque chose de l'ordre de l'unité. Vous voyez, ce n'est pas pour rien on peut être d'accord ou pas avec les thèmes de cette action de carême, mais en fait, on rassemble un peu nos forces, n'est-ce pas ? Ce qu'on veut donner, on le rassemble, c'est l'œuvre de l'Église. Ça marque notre unité. Voilà. La prière maintenant. Donc la prière... Dans le peuple d'Israël, elle a deux caractéristiques. La première, c'est que la prière du peuple juif, elle a une relation directe aux événements. On prie à partir de ce qui est arrivé, souvent pour se plaindre. On prie de ce qui arrive, ce qui se passe maintenant, souvent pour se plaindre. Ou pour qu'il arrive quelque chose qu'on le souhaite, afin qu'on n'ait plus trop à se plaindre. Et on prie, en principe, pour recevoir. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est que c'est de l'ordre du salut, quoi. C'est un peu plus grand, des fois, que les choses concrètes qui sont demandées. Et donc, le contenu de la prière d'Israël se situe dans l'histoire du salut. Puis, la deuxième caractéristique de la prière d'Israël, c'est qu'elle elle naît de l'écoute de la parole de Dieu. Je vous ai mis là un passage très, très, très célèbre du livre de Deutéronome, au chapitre 6. Écoute Israël, donc c'est Dieu qui parle à son peuple, écoute Israël, c'est la prière que font les Juifs pour commencer les Shabbats tous les samedis. Le Seigneur notre Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur, tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison, en voyage, que tu sois couché, que tu sois levé. Le texte, il va plus loin, mais comme ça venait trop serré, je ne l'ai pas mis. Tu tu les mettras, voilà. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front, tu les inscriras à l'entrée de ta maison. Si vous avez été à Jérusalem, au mur des Lamentations, vous voyez des fidèles juifs qui prient devant le mur des Lamentations, ils ont des espèces de bandelettes dont ils s'entourent les bras. C'est ça, c'est la parole de Dieu qu'on attache à son poignet comme un signe. Puis ils ont une sorte de webcam, comme ça, de caméra, n'est-ce pas, sur le front, attaché comme ça. Eh bien, là-dedans, c'est une petite reproduction de l'Arche de l'Alliance. Dedans, il y a les 10 commandements. C'est la parole de Dieu. Donc, pour prier, je reçois d'abord la parole que j'écoute et qui va me donner les mots de ma prière. Ça, c'est encore très chrétien. Vous parlez avec un cistercien, avec un bénédictin, il va vous dire qu'il prie comme ça. Il médite la parole de Dieu, qui va ouvrir sa prière, qui va lui donner les mots de sa prière. Ça, c'est l'Ancien Testament. Lorsque le Christ parle de la prière, alors le Christ, dans l'Évangile, surtout dans l'Évangile selon saint Luc, il donne beaucoup d'enseignements sur la prière. Beaucoup d'enseignements sur la prière. Je ne vais pas tout ça vous résumer. Je retiens deux caractéristiques ou deux enseignements du Christ sur la prière dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il dit comment il ne faut pas faire. Des fois, on apprend plus vite comme ça. Il dit d'abord, ne priez pas comme les païens. Donc, c'est toujours notre évangile, n'est-ce pas, du mercredi des cendres. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Donc, ne priez pas comme les païens, ça veut dire, il ne faut pas croire que parce qu'on dit beaucoup de prières, Dieu va mieux répondre ou va mieux entendre la prière. On n'est pas au kilomètre, quoi. Voilà. On n'est pas au kilomètre. Mais il ne faut pas non plus prier comme les hypocrites. Les hypocrites, le pape François aimait beaucoup prêcher sur les hypocrites. Les hypocrites, c'en est truffé dans l'Évangile. Ce sont les pharisiens, docteurs de la loi et scribes, qui s'opposent à Jésus. Jésus les traite très régulièrement d'hypocrites. Alors, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, parce qu'ils aiment à se tenir debout dans les synagogues, au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Et donc, eux ont déjà reçu leur récompense. Toi, quand tu pries, tu te retires dans la pièce la plus retirée, tu fermes la porte et tu pries ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père te voit dans le secret puisqu'il y est et il te le rendra. Donc, on peut retenir que la prière chrétienne, ce n'est pas comme les païens, il ne s'agit pas d'un commerce avec le Seigneur. Ça peut faire un peu sourire, hein, mais on entend dans nos milieux chrétiens, quand même, quoi. Ça fait 50 ans que je vais au pèlerinage à Lourdes, il m'arrive cette tuile, c'est quand même pas du boulot, quoi. Qu'est-ce qui ne marche pas, vous voyez ? Ça, c'est du commerce avec le bon Dieu, ça, c'est comme les païens, il ne faut pas prier comme ça. Parce que finalement, il s'agit d'une relation avec Jésus-Christ, et puis c'est finalement de lui présenter qui je suis, ce qui m'arrive, pour faire un peu comme je suis, ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive, puis je lui demande quelque chose pour que ça n'arrive plus, quoi. On peut retenir aussi que la prière chrétienne ne consiste pas donc à faire des prières, mais à entrer dans une intimité qui est figurée notamment par l'intimité de la chambre. Il y a un passage dans le livre des Nombres, je n'ai pas réussi à le retrouver pour le mettre sur mon PowerPoint, mais je ne pouvais pas tout mettre non plus, qui dit, quand tu as fait une grosse bêtise, un gros péché, n'est-ce pas, tu ne peux plus vivre sous le regard de Dieu, donc tu veux échapper au regard de Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu vas te réfugier dans la dernière chambre de ta maison, tu fermes bien la porte, et puis le Seigneur, il passera dans le corridor, et puis c'est dit un peu plus subtilement que ça, et puis en fait, il ne te verra pas dans le secret de ta chambre. Ben dans l'Évangile, Jésus dit le contraire. Justement, c'est dans le secret de la chambre que tu vas rencontrer Dieu en vérité. Il y a plusieurs choses comme ça, hein, dans l'Évangile, où l'Ancien Testament disait « ça c'est le signe que Dieu n'est pas là ». Et dans l'Évangile, c'est tout le contraire. Le chrétien, il reconnaît, vous voyez, celui qui est mort et qui est pendu au gibet, il est maudit de Dieu. Donc Dieu n'est pas là. Et puis, quand les chrétiens voient le Christ Jésus pendu à la croix, pendu au gibet, en fait, ils reconnaissent la présence du Seigneur qui les sauve. On est un petit peu dans le même ordre. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de... Ce qui compte, c'est la vérité de la relation. Et la relation, elle ne se voit pas. Pour nous, on pourrait dire, elle ne se sent pas. Quand je prie, je ne sens pas. la présence du Seigneur, et c'est normal, et je dois continuer de prier comme ça. Et comme je vous le disais au tout début, à la suite de ces deux enseignements, pas comme les païens, pas comme les hypocrites, comment alors Jésus enseigne le Notre Père. C'est la seule prière qu'il enseigne, hein, où il donne, il dit, voilà un texte que vous pouvez dire pour la prière. Donc vous voyez, la prière, l'effort de la prière pendant le carême, ça pourrait être simplement, quotidiennement, de prendre un moment pour dire un grand Notre Père, pour dire un Notre Père avec attention et de tout son cœur, en y étant complètement présent. Voilà sans doute ce que le Christ veut quand il enseigne comment est-ce qu'il faut prier pour les chrétiens. Et puis maintenant, on arrive au passage plus difficile, c'est le jeûne. Donc quand dans ma famille, on a vu sur le feuillet dominical que je donnais une conférence notamment sur le jeûne, on s'est moqué de moi. Et puis hier matin, en voyant la photo dans la gruyère, les séminaristes m'ont dit, c'est une photo qui a été prise il y a déjà un certain nombre d'années, ils m'ont dit, ah oui, avec une mine comme ça, tu peux aller leur parler du jeûne. Donc bon, je fais quand même. Le jeûne, la source du jeûne, elle vient, mais on peut dire plusieurs choses, hein, mais elle vient de l'expérience de la fuite d'Égypte, donc du début de l'Exode, n'est-ce pas ? Vous savez que donc il y a eu toutes ces plaies d'Égypte, puis à un moment donné, le Seigneur dit, maintenant ça suffit, on s'en va. Alors, pour s'en aller, ils doivent faire des préparatifs. Alors, il dit au peuple, vous demandez à vos voisins des objets en argent et en or, puis vous les prenez, comme ça, ils partent avec une certaine richesse quand même. Et puis ensuite, ils doivent tuer un agneau, puis ils reçoivent une liturgie, ils doivent mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, parce que cette nuit-là, le Seigneur va faire mourir tous les aînés du pays, hommes et bétail. Donc il ne faut pas que ça se passe chez le peuple d'Israël, donc il va reconnaître le sang de l'agneau, il n'entrera pas dans ces maisons-là. Et puis à un moment donné, c'est comme un exercice militaire, vous avez la radio qui s'embrille, deux codes secrets, fuego, fuego, marche terminée, c'est départ, quoi. Alors, ils partent avec tout ça, mais ils prennent quand même un peu de pique-nique, quoi, parce qu'ils ne savent pas jusqu'où ça les mènera, et donc ils ont préparé la pâte pour le pain du lendemain. Mais le pain est dans des espèces de mâles en bois, mais le pain n'a pas eu le temps encore de gonfler, alors qu'est-ce qu'on fait ? On les emballe dans des couvertures et des manteaux, et on part avec ça. Mais on va manger du pain azim, du pain qui n'aura pas eu le temps de lever. Et puis ce pain azim, il va être très vite remplacé, parce qu'il sèche, il va être remplacé par la manne, n'est-ce pas ? Cette espèce de pain du ciel, comme on l'appelle dans l'Ancien Testament et qu'on reprend ça dans l'Évangile selon saint Jean, le pain du ciel. Donc c'est une sorte, on ne sait pas bien, comme ça, de farine, de céréales qui tombe tous les jours, sauf le jour du sabbat. Et puis tous les jours, il y a ça, et le peuple peut pendant 40 ans se nourrir de ça. Les Israéliens, d'ailleurs, s'en plaignent, n'est-ce pas ? C'est vraiment du jeûne, cette manne, parce qu'ils en ont marre. Je pense que c'est toujours la même chose, ça doit avoir le même goût tout le temps, ils ne savaient pas trop comment la prêter. Il n'y a pas tellement de crème et de beurre pour faire des sauces avec cette manne. Alors, ils reprochent à Moïse les légumes frais qu'on avait en Égypte, on avait des oignons, on avait de l'ail, on avait des concombres, on n'a plus rien. Puis des fois, ils réclament même de la viande. Alors, comme consolation, ils reçoivent des cailles, n'est-ce pas, qui arrivent sur leur camp et puis ils peuvent manger une fois des cailles. Mais voyez, il y a certains pères de l'Église qui disent « Mais non, le jeûne, il naît au tout début du livre de la Genèse. » Et en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas jeûné que Adam et Ève ont commis le péché originel. Ils ont mangé le fruit défendu. Il ne fallait pas le manger, il fallait jeûner. Donc, vous voyez, il y a un petit peu, dans la chrétienté, on explique un petit peu les choses comme ça. Mais en fait, si on regarde un tout petit peu, quand est-ce que le peuple d'Israël jeûne ? Eh bien, il jeûne lorsqu'il veut se tenir avec humilité devant le Seigneur. Donc, le jeûne biblique de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec un exploit ascétique. Quand un homme s'abstient de manger, il veut signifier par là qu'il se tourne vers le Seigneur dans une attitude d'abandon pour implorer le pardon d'une faute. Le roi David, n'est-ce pas, quand il commet sa grosse faute, il prend la femme de Uri Hittite qui est à la guerre, il conçoit un enfant avec, il essaye de maquiller la chose, ça ne marche pas, il fait tuer Uri Hittite dans un combat de l'armée d'Israël. Voilà. Et puis le prophète Nathan vient chez lui en disant « Cet homme, c'est toi, tu as commis un gros péché. » David reconnaît son péché, eh bien, il va se couvrir de cendres, s'habiller d'une jute et il va jeûner. Voilà, il va jeûner jusqu'à ce que le Seigneur, finalement, lui a pardonné, lui a fait un petit peu payer son péché. Donc voilà, l'attitude, vous voyez, on se reconnaît pécheur devant le Seigneur. On le fait aussi quand on sollicite une guérison. ou bien quand on se lamente à la suite d'un malheur, on jeûne devant le Seigneur, ou bien lorsqu'on attend une grâce nécessaire à l'accomplissement d'une mission importante. Vous voyez, Salomon, qui va recevoir la royauté, ben, il jeûne. Ou bien lorsqu'on se prépare à la rencontre avec Dieu, on jeûne. On a deux exemples, ces deux jeûnes de 40 jours. C'est Moïse qui va aller recevoir la loi sur le mont Sinaï, et puis Élie qui va aussi rencontrer le Seigneur sur la montagne. Ben, les deux prophètes, ils vont jeûner pendant 40 jours et 40 nuits pour se préparer à cette rencontre. Il y a quelque chose, vous voyez, qui est repris de ça dans les 40 jours de tentation au désert pour Jésus, quoi. Donc il s'agit toujours de s'établir avec foi dans une attitude d'humilité pour accueillir l'action de Dieu ou se mettre en présence de Dieu pour le peuple juif. La pratique du jeûne, elle est aussi institutionnalisée, codifiée dans la loi religieuse en Israël. Oui, il y a aussi des... Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a des jeûnes liturgiques, vous voyez. Il y a un grand jour d'expiation du péché pour le peuple d'Israël, c'est un jour de jeûne. C'est une sorte de mercredi des cendres, de vendredi saint. Vous avez des jeûnes collectifs à des jours anniversaires qui souvent commémorent des défaites militaires. Donc c'est un peu des jeûnes nationaux, quoi. On a perdu du terrain. Ou bien alors, vous avez des jours de jeûne qui sont donnés comme dévotion personnelle. Vous vous souvenez de l'histoire de la prière du publicain et du pharisien au temple de Jérusalem. Le pharisien qui est tout devant, lui, il dit au Seigneur, mais moi je suis très content de moi-même parce que je fais un tas de choses et en plus, je jeûne deux jours par semaine. Ça, c'est une initiative privée qu'il a prise, mais qu'on pouvait prendre un jeûne privé en Israël. Alors, de nouveau, comme tout ça est codifié, voyez, il y en a qui jouaient avec ça. Il y en a qui, l'évangile, l'ancienne traduction, c'est dommage, on a changé avec la nouvelle traduction en français liturgique, elle disait, c'est Jésus qui dit, n'est-ce pas, quand vous jeûnez, ne vous composez pas, enfin, il faut avoir l'air joyeux, rasé, et puis un peu parfumé, il ne faut pas faire comme les hypocrites qui se composent une mine défaite. C'est une jolie expression, se composer une mine défaite, vous imaginez ce que ça peut donner pour jeûner. Donc Jésus dit... Il faut pas faire ça, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas s'afficher quand on jeûne. De nouveau, c'est discret, c'est secret. Mais jeûner, c'est un thème beaucoup plus large dans les paroles du Christ que ne pas manger quelque chose. C'est par exemple se détacher des richesses. Vous pouvez lire l'évangile, par exemple, selon Saint-Luc, mais Saint-Matthieu aussi, simplement en faisant attention, vous lisez comme ça un peu rapidement, mais vous faites attention simplement chaque fois que Jésus parle des richesses. C'est vraiment plein de... C'est assez fréquent. C'est aussi lié, le jeûne, à la continence volontaire. Donc là, on est dans le domaine de la sexualité. Le jeûne de nourriture, il est souvent lié à une abstinence de relations sexuelles. Et puis, il y a finalement le grand thème du Christ, qui est le renoncement à soi-même pour porter sa croix. C'est dans les discours, les paroles du Christ qu'on comprend comme... d'un jeûne, d'un renoncement. Il y a parfois même un grand renoncement, mais en fait, c'est la condition pour suivre Jésus. Cependant, ou ce faisant, n'est-ce pas, Jésus se situe dans la ligne des prophètes de l'Ancien Testament. Vous connaissez, n'est-ce pas, ce passage, parce qu'on le lit aussi pendant le carême dans la liturgie, le livre d'Isaïe, on arrive gentiment à la fin, au chapitre 58, versets 3 à 7. Donc, le peuple jeûne, et puis ils se plaignent, évidemment, quand ils prient, ils se plaignent, ils n'inventent rien, puis ils disent, mais enfin, quand même, on jeûne, et puis toi, tu réponds pas. Et puis le Seigneur répond, oui, mais votre jeûne se passe en dispute, querelle, en coup de poing, sauvage. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Donc vous voyez, ça ouvre de nouveau des perspectives qui, ne pas te dérober à ton semblable comme jeûne, ben, on peut réfléchir un moment, on peut avoir des idées, puis on peut se dire, mon Dieu, c'est un peu grand pour moi, je vais retourner me coucher. Alors, on a aussi, n'est-ce pas, d'autres textes, le même livre d'Isaïe au chapitre 1, donc là c'est au tout début, Vous avez le culte, c'est la prière, quoi, le culte, n'est-ce pas? Donc ces braves fils d'Israël qui vont faire la liturgie du pardon, donc ils descendent une fois par année avec leur clan, avec leur famille à Jérusalem, en tout cas ceux qui peuvent descendre. Et puis ils prennent, selon leur richesse, un agneau sans tache, mâle, sans défaut, ou bien un veau, le fameux veau gras, n'est-ce pas, de la famille du fils prodigue. C'était pour ça, c'était pour aller à Jérusalem pour le sacrifice du pardon. Et puis ils font tout ça, puis ils trouvent que le Seigneur est quand même un petit peu absent de la vie du peuple. Alors ils se plaignent, évidemment. Et puis le Seigneur répond, « Ça suffit, cessez d'apporter vos offrandes. J'ai horreur même de votre encens, vos nouvelles lunes, vos sabbats, vos assemblées, je n'en peux plus. L'odeur de la graisse, de ce que vous brûlez sur l'autel du temple de Jérusalem, ça m'écœure. Donc ça suffit, quoi. » Vous voyez, le rituel... ça ne suffit pas et même ça indispose le Seigneur. Voilà. Il y a quelque chose de ça. Donc, dans la pratique du jeûne, on peut indisposer le Seigneur et c'est ce sur quoi le Christ veut mettre le doigt. Alors, il faut maintenant aller... il faut maintenant aller un peu plus concrètement parce que l'heure avance aussi. Pratiquement pour nous, l'aumône, la prière et le jeûne, on fait quoi? Première chose peut-être... Oui, la question c'est, est-ce qu'on peut réussir son carême? Je suis peut-être un peu radical, mais j'ai de bonnes excuses, parce que ça fait 19 ans que je suis supérieur du séminaire, et alors vous savez, les séminaristes, sauf peut-être certains anciens qui sont présents dans la salle, mais les séminaristes font assez sérieusement le carême. Alors ils se choisissent un effort de carême, en tout cas à une époque c'était ça, puis comme on vit ensemble, c'est pas qu'on est les uns sur les autres, 5 fois par jour à la chapelle, 3 fois par jour au réfectoire, donc au bout de 10 jours, grosso modo, si vous êtes un peu attentif, vous voyez ce que les autres ont choisi comme effort de carême. Et puis alors, parce que quand vous vivez avec les autres, vous connaissez tous leurs défauts, surtout les gros défauts. Puis vous voyez qu'ils ont choisi une sorte de petit effort, mais complètement marginal, parce qu'ils n'ont même pas conscience du gros défaut qu'ils ont. Puis vous vous dites, ben zut alors, voilà. Ou bien alors, ils prennent un tout petit effort de carême, et puis, alors vous le voyez, puis ils font ça quotidiennement, puis à la fin, ils sont enchantés, ils vont voir leur confesseur le vendredi saint ou le samedi saint, puis ils disent, mais en fait, j'ai réussi mon carême, j'ai tenu jusqu'au bout. Ben vous voyez, dans le simple fait de dire, j'ai réussi mon carême, ça veut dire que le carême est loupé. Parce que, vous voyez, vous arrivez à la fin du carême, puis vous dites, mon carême, réussite humaine. Or, le carême, c'est pas vous, c'est Jésus. Le carême, c'est Dieu qui a repris sa place, un peu centrale quand même, on y vient, dans votre vie. Dès que vous pouvez être satisfait de vous, c'est raté. Donc, il faut surtout aller se confesser pour dire, j'ai raté mon carême, j'ai pas fait mon carême. Voilà. Donc, les pères de l'Église disent, par exemple, en parlant de l'aumône, de la prière et du jeûne, ils disent, attention, c'est pas 3 trucs juxtaposés qu'il faut faire. Puis vous voyez aujourd'hui dans ces milieux un peu ecclésiastiques, paroissiaux, chrétiens, n'est-ce pas, la bande à Jésus, on dit, oui, on va pendant le carême, alors j'axe plutôt sur la prière. Et puis moi, je devrais dire, non, mais alors moi plutôt sur le jeûne, parce qu'il faut que je perde un peu de poids, vous voyez. C'est pas du tout ça. Les pères de l'Église disent, attention, tout ça, c'est 3 expressions d'un même mystère. Et donc, si tu jeûnes, ce que tu as économisé en jeûnant, par exemple, vous ne mangez qu'une soupe, au lieu, et vous renoncez à une belle entrecôte. Ben, la différence du prix de ce que vous a coûté la soupe ou de ce que vous aurez coûté l'entrecôte, eh bien, vous ne le gardez pas sur votre compte épargne à la Refaison, mais vous le prenez et vous le donnez à quelqu'un qui n'a peut-être pas assez pour manger. Voilà. Vous voyez, votre jeûne, il va servir votre aumône. La prière aussi, le jeûne, parce qu'on dit, n'est-ce pas, oh, on peut jeûner aussi, par exemple, je suis moins sur mon téléphone, moins sur ma tablette, moins sur l'ordinateur, moins devant la télévision. Comme ça, je jeûne de ces choses-là. Donc, tu gagnes du temps. Mais il ne faut pas simplement gagner du temps pour rien faire. Ton temps, bah, tu vas peut-être le prendre pour aller visiter quelqu'un qui est un peu seul et qui a besoin de ta visite. Ou bien ton temps, tu vas le passer justement à prier peut-être un peu plus, à lire un peu l'Évangile justement peut-être, parce que c'est de la parole de Dieu d'ailleurs que naît ta prière. Donc voyez, les pères d'Église, très vite, ils ont dit ça doit se tenir ensemble. Puis une deuxième chose qu'ils disent, c'est que ça doit toujours avoir lieu avec, la pénitence de carême, aumône, prière, jeûne, elle doit toujours avoir un impact sur quelqu'un d'autre. Je ne fais pas mon petit carême à moi tout seul dans mon coin, mon jeûne, mon aumône, ma prière. voyez ? C'est un peu dans le même sens. Si je jeûne, c'est que ça va aider quelqu'un. Si j'ai plus de temps parce que j'en perds moins, je vais le consacrer à quelqu'un. Donc, il faudrait pour bien, je me rappelle le père abbé de Haute-Rive, c'était l'ancien, donc il y a prescription, dans la règle de Saint-Benoît, au début du carême, chaque moine doit choisir un effort de carême, c'est comme au séminaire, et puis ils doivent alors parler au père abbé. Et le père abbé, il peut remettre un tout petit peu la chose en situation, et l'ancien père abbé me disait, je dois trop régulièrement dire à mes moines, mais ça ne va pas. Par exemple, donne un exemple, un moine qui vient dire au père abbé, moi alors je ferai un peu plus attention à respecter le silence après les complis. Et le père abbé lui a dit, ça n'est pas suffisant. Parce que respecter le silence, point. Il lui dit, très bien, alors ça veut dire que tu ne respectes pas le silence. Alors, quand est-ce que tu ne respectes pas le silence après les complis? Très bien. Et puis, si tu ne le respectes pas, c'est que tu parles avec quelqu'un. Avec qui et où et à propos de quoi? C'est à la cuisine avec le cuisinier, parce qu'en fait, on finit le pain quand on a un petit peu... Bon. Alors, le père abbé disait, tu dois tout prendre en considération. Parce que le fait que tu respectes mieux le silence, tu respecteras aussi mieux... celui de ton collègue. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait un lien avec quelqu'un d'autre. Voilà. Le danger, donc, pour réussir son carême, il faut être attentif à deux ou trois points. Le premier, c'est le danger de la codification des pénitences de carême. Donc, on a bien compris qu'il ne s'agit pas de faire les actes pour faire les actes. Aujourd'hui, vous savez, les jeunes, je vois ça au séminaire, ils ont des trucs, ça s'appelle Exodus, ou bien ça s'appelle Virtus. Et puis, c'est des petits carnets. Et puis, vous engagez à faire des choses, voyez, quotidiennement, dans la semaine. Puis vous cochez. Ça vient évidemment des États-Unis. Je suis très prudent avec ça parce que si on a tout coché à la fin du carême, on est très content de soi. Et à mon avis, c'est pas mon avis. Je crois que c'est l'Évangile. C'est pas le but. La pratique unifiée, j'en ai parlé. Une pratique en lien avec les autres, j'en ai parlé. Alors, des propos du Christ, qu'est-ce qu'on retient? On retient d'abord le décentrement de soi. C'est-à-dire que j'ai pris deux passages. Vous savez, chaque année, au début du carême, le pape écrit un message pour le carême. J'ai pris celui de Benoît XVI en 2011 et celui de Léon XIV en 2026. Je vous cite quelques passages. Mais il y a d'abord, n'est-ce pas, le grand but du carême, c'est de se décentrer de soi, de prendre conscience qu'on est trop souvent le centre de son existence et de celle des autres et qu'on doit y laisser... On doit y laisser Jésus, on doit y laisser Dieu dans ce centre. Donc vous avez Benoît XVI qui écrivait « Nous libérer », il faut que je retrouve maintenant ça sur mes papiers, « nous libérer », c'est sur l'ancien papier. Je vais lire comme... Non, mais je l'ai ici. « Nous libérer de notre égoïsme en dépassant l'instinct de domination des autres et en nous ouvrant à la charité du Christ. » Oui. « Je m'ouvre à la charité de quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. » Ou bien le pape Léon... Le carême est le temps où l'Église nous invite à remettre le mystère de Dieu au centre de notre vie, afin que notre foi retrouve son élan et que notre cœur ne se disperse pas entre les inquiétudes et les distractions quotidiennes. Là, encore une fois, dans l'Évangile, c'est bourré d'exemples que Jésus donne pour nous décentrer de nous-mêmes. Par exemple, chaque fois qu'il parle de la voie de l'enfance, n'est-ce pas ? Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si vous ne devenez pas comme des enfants. Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est ce petit enfant qu'il a placé au milieu, d'ailleurs, du groupe de ses apôtres. Ou bien vous avez le renoncement à soi. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Voilà. Ça, c'est se décentrer. Vous voyez, perdre quelque chose de soi. Ne serait-ce que d'avoir toujours raison, par exemple. Ou bien le discours ou le dialogue de Jésus avec Nicodème, chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean, la naissance d'en haut. Amen, amen, je te le dis. Quiconque, on ne peut voir le royaume de Dieu si on ne renaît pas de l'esprit, si on ne naît pas dans une nouvelle naissance. Donc il y a quelque chose de, c'est plus moi qui suis aux commandes forcément. J'apprends à vivre en recevant la vie et non pas en la possédant tout le temps. Ce décentrement de soi, il a un but, c'est la conversion. Et la conversion, vous savez, on dit souvent, je vais me convertir, je me suis converti, faut que je me convertisse. Mais c'est de nouveau, je me moi. La conversion, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Ce n'est pas nous qui nous convertissons, nous nous laissons convertir par Dieu. Benoît XVI, en 2011, le parcours du carême consiste à nous rendre conformes au Christ dans sa mort pour opérer une profonde conversion de notre vie. Mais vous voyez, l'opération de la profonde conversion, elle vient, on y vient tout à l'heure, de la conformité à la personne du Christ dans le don qu'il fait de lui-même, donc dans sa mort. C'est-à-dire que je deviens, je quitte un peu mon déguisement ou ma forme pour épouser ou revêtir celle du Christ. Saint Paul va parler de l'homme nouveau, n'est-ce pas ? Revêtons l'homme nouveau pour chasser l'homme ancien. Vous avez le pape Léon XIV dans le même sens. Tout cheminement de conversion commence lorsque nous nous laissons rejoindre par la parole et que nous l'accueillons avec docilité d'esprit. C'est pourquoi le cheminement du carême devient une occasion propice pour prêter l'oreille à la voix du Seigneur et renouveler la décision de suivre le Christ. Mais voyez, c'est plus moi, est-ce que je pense, est-ce que je rumine tout le temps qui est le centre de ma vie, c'est la parole du Seigneur que j'accueille avec docilité. Et à partir de cet accueil, ça manifestera que j'ai une oreille pour la voix du Seigneur, donc le Seigneur a une chance de prendre la place au centre de ma vie. Et puis alors, cette conversion, elle se réalise, ou elle réalise en nous une transformation. Et en fait, c'est ça le but de la vie chrétienne, n'est-ce pas ? Avoir part à la vie divine, c'est se laisser transformer, laisser notre vie humaine se transformer, parce que nous participons à la vie même de Dieu. Elle devient divine aussi, notre vie humaine. Benoît XVI, nous laisser transformer par l'action de l'Esprit-Saint, donc vous voyez, l'acteur, c'est l'Esprit-Saint, comme saint Paul sur le chemin de Damas, mener fermement notre existence selon la volonté de Dieu. La période du carême est un temps favorable pour reconnaître notre fragilité, pour accueillir à travers une sincère révision de vie la grâce rénovatrice du sacrement de pénitence et marcher résolument vers le Christ. Mais vous voyez, on est dans l'ordre de l'accueil de quelque chose qui nous transforme et qui nous rénove. On a quelque chose d'un peu semblable, mais un peu différent, chez le pape Léon. Il existe donc un lien entre le don de la parole de Dieu, l'espace d'hospitalité que nous lui offrons, et la transformation qu'elle opère. Donc il y a une transformation intérieure. Le cardinal Charles Journet, à qui je donnerai la parole pour finir avec la dernière diapositive, le cardinal Charles Journet, il dit que la vie chrétienne, la vie dans la grâce chrétienne, elle consiste pour le chrétien en une christoconformation. Donc c'est-à-dire que nous revêtons la forme qui est celle du Christ. Nous devenons semblables au Christ. C'est notre nom, nous sommes des chrétiennes et des chrétiens, on devrait tous s'appeler chrétiens et chrétiennes. Nous nous appelons Christ en fait, parce que nous suivons Jésus-Christ et que nous croyons, même si ça, on garde nos gros défauts, on garde notre mauvais caractère, donc tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on croit que s'il y a une réelle, si notre vie chrétienne n'est pas un mensonge, eh bien il y a une réelle transformation petit à petit de notre vie humaine en vie christique, une christo-conformation. Si bien que le but de la vie chrétienne, c'est de manière très concrète de refléter la vie divine. Alors, je vous montre une dernière photo qui a été prise par la prieure du Carmel du Paquier. Pas l'été passé, mais l'été d'avant, c'est vers l'étang du Bugnon. Et puis, elle a pris cette photo. Vous voyez que, en fait, l'eau est tellement calme dans cet étang du Bugnon, qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, qu'on peut... Alors, j'ai la vraie photo sur papier, et c'est plus visible, bien entendu, sur papier. C'est que vous pouvez tourner la photo à l'endroit ou à l'envers, elle est toujours à l'endroit ou toujours à l'envers. C'est-à-dire qu'on arrive finalement, voilà, je vous aide un tout petit peu, mais à part deux petits détails, puis le fait que ce soit un tout petit peu plus sombre dans les temps, on n'arrive pas bien à voir où est le reflet. Est-ce qu'il est en haut ou est-ce qu'il est en bas ? Parce que c'est parfaitement la même chose. Alors le reflet, il est en bas. En haut, c'est la réalité, c'est la vie divine. Et puis nous, notre vie chrétienne, elle consiste en quoi ? Ben, elle consiste simplement à refléter la vie divine qu'elle reçoit. Et vous avez le cardinal Journet qui a des textes absolument magnifiques sur ces réalités-là. Je vous en ai mis, comme c'était serré sur la diapositive, qu'un tout petit résumé. Je vous lis peut-être la citation complète. « Au plus haut moment de son existence, l'âme purifiée par la grâce dans ses profondeurs est toute sensibilisée aux réalités divines, toute ravie des splendeurs que la foi lui en laisse pressentir, toute accueillante et consentante au mystère des processions intra-trinitaires. Elle les reflète au sein d'elle-même. Elle les éprouve intensément, elle les expérimente en quelque sorte. En ce sens, elle fait un avec le Père pour engendrer le Fils, un avec le Père et le Fils pour respirer, pour spirer l'Esprit-Saint. Voilà le but du carême. Si on arrive à, disons, à commencer à marcher dans cette direction, alors le carême n'aura pas été complètement vain. Merci de votre attention.